Donc, vous avez compris que c'était une bonne chose que de pardonner. Et Jésus nous montre la voie à un moment en particulier, très spécial. Parce que si même Jésus se soumet à cette loi du pardon, eh ben, il va le faire sur la croix. Une des dernières paroles qu'il va prononcer, c'est « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Donc si même Jésus le fait, Étienne aussi va le faire. Tu te rappelles l'histoire d'Étienne où il est entre le ciel et la terre, là il voit le ciel ouvert sur lui, il dit la même chose. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué ou si vous avez côtoyé des personnes qui sont sur le point de mourir, mais ils ont besoin de pardonner et de demander pardon. Vous avez remarqué ? Donc ce n'est pas anodin, c'est une affaire très sérieuse, le pardon. C'est comme si on doit se mettre en règle. C'est une affaire légale, le pardon, d'accord ? Et en même temps, c'est une source de guérison extraordinaire. La vengeance de Dieu, celle qui est décrite dans Ésaïe 61, elle se manifeste à travers la guérison et la délivrance. Quand Dieu se venge, il se venge de ses ennemis qui sont spirituels, donc il guérit, délivre. Ça, c'est la vengeance de Dieu. Et il l'accomplit à travers nous. Quand il y a des soirées de réveil, il y a des guérisons, des délivrances, c'est une sacrée vengeance de Dieu sur l'ennemi. Il récupère ses enfants. Il récupère son territoire. Et Jésus lui-même, sa mission sur terre, c'était quoi ? Entre autres, c'était de détruire les œuvres du diable. Hein ? C'est pas... Le pardon, c'est une puissance de guérison. Hein, regardez. Puissance de guérison. Donc voilà. Là, j'aimerais juste vous expliquer ce principe qui est quand même très important. Donc, je vais juste résumer. On a besoin de pardonner aux autres, n'est-ce pas ? Ça, on l'a vu. On a besoin de pardonner à Dieu. Alors ça, Joanna, elle pourrait dire hérésie, comme elle a dit déjà. Pardonner à Dieu. On pardonne à Dieu, pas parce qu'il a besoin d'être pardonné, parce que comme s'il avait fait une erreur. Mais ça, c'est aussi la preuve que quand on pardonne, c'est toujours pour nous qu'on le fait. Mais souvent, on doit pardonner à Dieu parce qu'on s'est trompé de cible, en fait. Et puis, des fois, on pense que c'est la faute de Dieu, la faute de Dieu, la faute de Dieu, la faute de Dieu. Et donc, souvent, parfois, on doit pardonner à Dieu, ce qui va nous décentrer de nos fausses perceptions pour qu'on retrouve Dieu comme celui qui est toujours avec nous et pour nous et pas celui qui est contre nous. Mais ça, c'est très important parce que, je le répète, la stratégie de l'ennemi, c'est de nous faire voir Dieu comme celui qui nous agresse. D'accord ? Donc, des fois, on doit... Dieu, c'est un bon papa. Il préfère toujours nous avoir à proximité qu'à distance. Donc il préfère avoir son enfant qui lui tape dans le ventre en disant « Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça ? Moi je suis en colère. » Moi je suis... Il préfère ça parce que tu restes près de lui que tu l'ignores, que tu te sépares de lui. Donc ça, tu as le droit de faire, je te dis. Tu as le droit d'exprimer toutes tes émotions à Dieu, toute ta frustration. Tu as le droit de le faire. D'ailleurs, il faut, c'est très important de vider son sac. D'ailleurs, je dis une chose très importante, c'est que souvent les chrétiens, ils disent aux autres, il faut pardonner, t'es chrétien, il faut pardonner, il faut pardonner, il faut pardonner. Mais des fois, on le dit trop vite, sans laisser la personne exprimer tout ce qu'elle ressent ou vider ses poubelles. Bon, après, il faut doser. Genre, tu vides tes poubelles, ok, vas-y, t'as tout dit, t'as vidé ton cœur, t'as tout exprimé. Oui, ok, ben maintenant, on va pardonner ensemble, d'accord ? Je t'aide, je te conduis dans le pardon. Mais par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est nourrir la pitié de soi qui est un esprit mauvais. Parce qu'il faut faire la différence entre celui qui vide son sac parce qu'il en a besoin, tu sens que c'est lourd, donc il doit parler, et puis la personne qui cherche un défouloir, mais qui n'a pas envie de s'en sortir, en fait. Tu vois, ce n'est pas la même chose. La pitié de soi, c'est un esprit mauvais et tu dois y mettre fin. Moi, des fois, dans des entretiens, je dis « Stop, t'as envie de t'en sortir ? ou juste de te plaindre. Parce que moi, je ne suis pas un déversoir de plaintes. Moi, je suis là pour t'aider si tu as envie de t'en sortir. Mais si tu as envie juste d'entretenir un esprit de pitié de soi, je ne vais pas collaborer avec toi. D'accord ? Des fois, la différence, elle est un peu subtile. Mais tu dois avoir un discernement. Donc déjà, tu ne peux pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé. Ça, c'est une loi fondamentale. Mais c'est très important. C'est pour ça que nous, pour booker un entretien conduit par le Saint-Esprit, c'est ce qu'on propose, eh ben, il faut avoir lu le magazine, là. Il faut s'être préparé dans la prière et dans le jeûne. Il faut avoir pris un rendez-vous sur le site internet. On suggère un certain montant qui n'est pas obligatoire, mais suggéré pour que la personne, elle, donne de soi-même, c'est-à-dire aussi de son argent. Ça vous choque ? En France, ça choque toujours. Mais on voit la différence parce qu'au début, on faisait tout gratuit. Et puis les gens, ils considèrent que c'est un droit. Alors que c'est une grâce. Parce que la personne qui est là, elle se déplace pour venir là. Elle a investi du temps pour se former. Puis souvent longtemps. Parce que c'est, hein, quand tu as l'âme de la personne entre les mains, ce n'est pas rien. C'est une sacrée responsabilité. Enfin, il y a toutes sortes de choses. Mais on suggère un prix. Ce n'est pas obligatoire. Mais si tu n'as rien... Amène-moi une courge. Ça, on m'a déjà fait. On m'a amené des courges, des fois. Des courges. Cultivées avec amour. Donc, maintenant, je ne fais plus d'entretien. Je vois que des pasteurs ou des leaders clés. Et puis ça, je ne leur fais pas payer. C'est pour vous dire qu'il y a des saisons comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que on crée quand même tout un parcours d'obstacles pour être sûr que ceux qui arrivent jusqu'au bout, ils sont vraiment motivés. Parce que moi, je ne veux pas perdre une heure avec une personne qui me roule dans la farine. Je veux que ce soit efficace. Et puis, pour ça, il faut éprouver la demande. Très important. Éprouver la demande. Est-ce que Jésus ne faisait pas ça ? Regarde la femme avec la perte de sang. Pensez qu'elle a dû affronter quoi pour arriver jusqu'au pan du manteau de Jésus ? Elle a dû confronter le regard des autres, les interdits de la loi juive. Elle a dû confronter le rejet, le regard de tous ceux qui la méprisaient. Elle a dû surpasser ses douleurs, sa fatigue, pour arriver jusqu'à Jésus et recevoir la guérison. Quand tu sèmes, tu récoltes. Mais quand tu débarques à un entretien et puis que pour toi c'est un droit et que tout le monde est à ton service, tu sais ce que tu reçois ? Rien. Puis après tu dis oh, ça ne fonctionne pas vos trucs. Puis après celui qui donne l'entretien, il est découragé parce qu'il se dit ça ne fonctionne pas ce truc. Parce que ce n'est pas respecter les principes spirituels. C'est très important de connaître les principes spirituels, les amis. Très important. Jésus ne se laissait pas marcher dessus. Il a donné sa vie à la croix, mais il ne s'est pas laissé marcher dessus. Et puis, on est tous responsables de son temps. Donc, on ne veut pas perdre du temps avec des gens qui en abusent. On veut investir notre temps dans une bonne terre qui va porter du fruit. Tu vois, ton temps sur la terre, il est limité. Tu dois l'investir intelligemment. Mais le problème, des fois, on fait trop. On pense qu'un bon chrétien, c'est quelqu'un qui doit se laisser marcher dessus. Non, c'est quelqu'un d'intelligent, qui sait bien gérer sa vie, qui investit dans la bonne terre, au bon endroit, qui est sage. Tu vois ? Ça va ? Ce que je te dis, ça te perturbe ? Je vous explique, je vous partage mon expérience de vieux dinosaure. Hein. Si ça peut servir, c'est vrai qu'avec l'âge, tu accumules quand même une certaine expérience. Donc j'ai fait plein d'erreurs pour arriver à ça. C'est ce que j'enseigne, je dis. Il faut qu'il y ait une demande pour pouvoir y répondre. S'il n'y a pas une faim, une soif, il n'y a rien qui sera reçu. Dieu, il donne à boire à celui qui a soif. Hein ? D'accord ? Donc, tout ça pour dire qu'il y a tout un petit parcours de préparation, mais c'est comme quand tu fais des rencontres où les gens, ils ont investi, tu vois, ils ont bravé la neige, ils ont payé l'avion depuis la Belgique, ils ont fait de la route. Tu peux être sûr que ceux-là, ils reçoivent le package. Sûr. Ceux qui viennent de Suisse, là, eux, ils reçoivent le package à tous les coups. Mais ceux qui viennent en reculant, qui sont là, oh, je ferais mieux d'aller ailleurs, ben, eux, ils reçoivent pas le package. Ça va ? Vous êtes tous dans l'autre catégorie. Hein. C'est bien. Donc, j'aimerais vous conduire à plein de guérisons et plein de délivrances, si on peut. Mais pardonner aux autres, pardonner à Dieu, se pardonner à soi-même, très important. Qu'est-ce que vous avez à vous pardonner, les amis ? Plein de choses. Hein. Se pardonner à soi-même, très important. Et puis demander pardon. Parce qu'on n'est pas que des victimes. On est victime et agresseur. Donc on a tous besoin d'être pardonné et on a tous besoin de pardonner. Tu n'es pas qu'une victime, tu as aussi été un agresseur. Tu n'es pas qu'un agresseur, tu as aussi été une victime. Tu es les deux, donc tu as autant besoin de recevoir le pardon que de pardonner. Donc comme ça, tu te positionnes au bon endroit. Puis tu dis, Seigneur, tu m'as fait la grâce de pardonner mes péchés. Parce que si tu confesses tes péchés, Jésus, il est fidèle et juste pour te les pardonner. Moi, je donne l'exemple des femmes qui ont vécu des avortements et des hommes, parce que les hommes aussi, ils avortent, les amis. Vous êtes aussi responsables. En plus, vous êtes le responsable dans le couple. Donc ça, c'est très important. On a besoin de recevoir le pardon concernant ces choses-là. Mais il y a une chose qu'on doit savoir, c'est qu'une femme qui a avorté, elle va se dire, oui, c'est bon, Jésus m'a pardonné, mais elle ne va pas vouloir se pardonner. Comme si elle avait besoin de subir, de souffrir, comme si elle était à la place de Jésus. Tu vois, là, il faut que j'aille sur la croix, il faut que je souffre pour que je paye pour moi-même. Ça, c'est très propre aux femmes qui ont vécu des avortements. Donc, quand tu le sais, ben, tu vas prendre le temps de bien lui expliquer et puis de l'accompagner aussi à renoncer à un esprit mauvais qui s'appelle le punisseur, celui qui punit. Ça, c'est comme un peu du sabotage. Une femme qui a avorté, elle va avorter tout dans sa vie. Ses entreprises, ses écoles, ses relations. Parce qu'il y a comme un espèce d'esprit de mort, un esprit de destruction qui est rattaché à ce qui s'est passé. Et ça, il faut en être délivré. Dans sa mentalité et spirituellement. Mais c'est comme tout est connecté, il faut travailler aussi la mentalité et la perception des choses et il faut chasser les esprits mauvais. Il y a toujours les deux, hein, c'est pas que l'un ou l'autre. Parce que comme je vous dis, chasser un esprit mauvais, c'est tout à fait possible, mais on veut rester libre. Et pour rester libre, il faut avoir nos croyances et notre système de croyances ajustés avec Dieu. Tu vois ? L'ennemi, c'est le père du mensonge. Il va s'attacher à nous lier à des mensonges. Par exemple, si ton père il commence à te dire « t'es nul, tu ne te marieras jamais, personne ne voudra de toi », tu vas finir par le croire, puis après tu vas commencer à le déclarer sur toi. Et puis là, t'es lié, en fait. Parce que l'ennemi va tout faire, il va te faire vivre des choses, il va te montrer certaines choses jusqu'à ce que tu le déclares. Et une fois que tu le déclares, tu te lies, tu te maudis toi-même, tu te lies avec ta parole. Ça, c'est des sacrés liens spirituels. Mais il plante ses affaires de manière stratégique, l'ennemi. C'est pour ça que je dénonce ses façons de faire. Comme ça, vous savez comment défaire les choses qu'il a essayé de faire. Donc, il y a tellement de choses que je pourrais vous faire faire. J'essaie de savoir par quel bout aller. Donc, quand vous lirez Ésaïe 61, vous allez faire ce travail de demander à Jésus pourquoi vous devez vous pardonner. Mais si Jésus vous fait la grâce de vous accorder son pardon, qui êtes-vous, vous, pour refuser le pardon de Jésus ? Il a payé un prix fort à la croix, mais c'est ce que je leur dis. Je leur dis, Jésus, il a tout donné, il s'est sacrifié pour que tu sois libre du péché. Et toi, tu n'es pas capable d'accueillir ça, parce que de choisir de ne pas se pardonner à soi-même, c'est de refuser le pardon de Jésus. C'est grave. Humblement, et c'est de l'orgueil aussi. C'est de dire, non, j'y arriverai tout seul. Non. Sans Jésus, tu ne peux pas te sauver toute seule. Tu peux te crucifier toi-même comme ils font au Brésil. Il y en a qui se crucifient sur des vraies croix. Tu sais ça ? Et peut-être ailleurs qu'au Brésil, mais... Mais ça n'a aucun effet. Il n'y en a qu'un seul qui a le pouvoir de pardonner tes péchés, c'est Jésus. Donc la seule chose que toi, tu peux faire, c'est d'accepter le pardon de tes péchés. Donc c'est de ton devoir de te pardonner. Et je dois me pardonner. Je choisis de me pardonner. Tu vois que le pardon, il se conjugue. Hein. Pardonner aux autres, pardonner à Dieu, se pardonner à soi-même et demander pardon. Dans la brochure Ésaïe 61, on vous explique comment écrire des lettres de demande de pardon ou de... Ben voilà, tu m'as offensé. Tu vois, des fois... C'est bien d'aller voir les gens pour s'expliquer. Et puis des fois, quand la relation elle est toxique ou qu'on sait qu'en face de la personne, on perd tous ses moyens, ben c'est bien de lui écrire une lettre pour lui dire vraiment ce que tu penses. Et puis quand tu écris une lettre, ce n'est pas des lettres d'insultes que tu dois écrire. Celles-là, les lettres d'insultes, tu peux les écrire, mais sans jamais les envoyer, pour vider ton sac. Tu peux le faire. Ça soulage peut-être. Hein ? Mais des lettres que tu envoies, puis il faut beaucoup de courage pour le faire, ben, c'est des lettres où tu peux bien réfléchir qu'est-ce que je dis et comment est-ce que ça peut être reçu, parce que le but en Christ, ça va toujours être la réconciliation. Donc quand tu vois une lettre, quand on voit une lettre à un agresseur qui t'a peut-être agressé sexuellement, tu vas le faire pour lui donner l'opportunité de te demander pardon et d'être pardonné. Ça, c'est une grâce extraordinaire. Et puis aussi, potentiellement, tu peux arrêter la chaîne. Après, c'est bien de dénoncer aussi la police. Hein. Parce que, en général, des gens qui agressent une fois, ils agressent deux fois, trois fois. Donc, si toi, tu dénonces, tu protèges les autres. D'accord ? Ah oui, c'est un sacré sujet. Donc, on peut envoyer des lettres aux personnes qu'on a offensées pour leur demander pardon. Et on peut envoyer des lettres à des agresseurs qui nous ont fait du mal pour leur proposer de demander pardon. Ben, tu m'as fait mal, en fait, quand j'ai vécu ça, 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 ça et ça. Et j'aimerais bien qu'on puisse avoir une discussion ou peut-être se réconcilier. J'aurais besoin, en fait, que tu me demandes pardon. Enfin, c'est tout un ministère, hein, la réconciliation. Mais les lettres, moi, j'ai écrit des lettres à des agresseurs et j'écris des lettres à des victimes. C'est simple, tu demandes à Jésus, « Jésus, à qui est-ce que je dois écrire une lettre ?» Et tout de suite, tu sais. Enfin, tout de suite, il te montre. Mais ça, c'est important. Et quand tu fais ce travail-là, là, tu SM la vie. Hein. Tu dis, « Mais c'est qui cette personne-là qui m'envoie une lettre comme ça ?» C'est jamais arrivé de ma vie. Hein. Qui est cet extraterrestre ? C'est Jésus. Donc, comme ça, vous pourrez lire. Je vous donne des modèles de lettres aussi pour vous inspirer. Mais c'est très puissant. Hein. Je me rappelle un monsieur d'un certain âge en Normandie. Il avait écrit une lettre à sa mère qu'il n'avait jamais osé lui envoyer. Il y avait eu des secrets de famille, des choses jamais dites. Et puis, il avait écrit la lettre avec l'aide d'une personne. On peut être conseillé aussi, on peut... être nous un vis-à-vis en disant bah, là c'est un petit peu dur ou là peut-être tu devrais dire ça parce que tu me l'as dit mais tu ne l'as pas exprimé dans la lettre. Tu vois, on peut être coaché avec une lettre. Il a écrit sa lettre, il l'a travaillée, l'a mis dans une enveloppe. Au moment où il l'a mis dans la boîte aux lettres, il a été délivré, enfin il a vécu une délivrance majeure, juste de mettre la lettre dans la boîte aux lettres. Donc je vous dis juste comment ça peut être puissant. Donc après, vous faites comment le Saint-Esprit vous parle, d'accord ? Mais en tout cas, vous devez faire ce travail, et de manière minutieuse. Pardonner, pardonner, pardonner. Donc, je vais peut-être faire venir Darlène. Est-ce que tu aimerais partager comment on peut pardonner à Dieu ou en fait réaliser que ce n'est pas lui l'agresseur, hein? J'aime bien ton témoignage. Bon, tu l'as déjà dit plusieurs fois, je te fais un peu une surprise.
Alors, mon témoignage, c'est qu'il y a 6 ans, j'ai perdu un petit garçon de 14 mois d'une méningite foudroyante. Et à partir de ce moment-là, en fait, quand j'ai perdu mon petit garçon, j'ai cru que c'était Dieu qui avait choisi de le reprendre. Ce mensonge, il est venu directement et j'en étais convaincue que c'était Dieu qui avait besoin de ce petit garçon qui était spécial et que c'était OK. Et c'était OK pour moi. Et mon mari, il n'avait pas du tout la même conviction, mais on ne se le disait pas, et puis c'était OK. Et puis j'ai avancé comme ça jusqu'à un moment donné où mon mari, il allait faire un entretien avec Sandra. Et quand il est revenu, il m'a dit « J'ai dû te pardonner ». Je dis « Ah bon ? Pourquoi ?» Il m'a dit « J'ai dû te pardonner parce que tu crois que c'est Dieu qui a choisi de reprendre Yaël. » Et c'est venu comme... Ça m'est venu en pleine face, en fait, de dire, mais en fait, oui, peut-être qu'il a raison, en fait, que c'est pas Dieu qui choisit de reprendre prématurément. Et le lendemain, on avait une session où Sandra, elle nous enseignait, et de nouveau, ça m'est revenu en pleine face. Et là, j'ai dit, je capitule. Et j'ai vraiment dû demander pardon à Dieu d'avoir cru que c'était lui qui avait choisi de me reprendre à elle, d'avoir cru à ce mensonge. Que c'est pas un bon papa et qu'il reprend prématurément. Et ça a pris du temps, mais une fois que j'ai compris, ça a été rapide. Et aussi en fait, j'en avais pas conscience, mais je lui en voulais à Dieu. Parce que quand on te donne un enfant, tu n'as pas envie qu'on te le reprenne. Et de comprendre qu'en fait, c'était pas lui qui avait choisi de me reprendre mon fils. Mais que c'était, dans ma famille, il y a eu des morts prématurées qui se sont répétées. Et du coup, on a pu régler aussi cette malédiction générationnelle, qu'il y a des morts prématurées dans ma famille. Et on a pu, moi j'ai coupé toutes ces choses pour moi et ma famille. Donc là, c'est terminé. Il n'y aura plus de morts prématurées dans ma famille. Mais j'ai dû aussi dire, Dieu, je te pardonne parce que en fait j'avais besoin, alors que lui il a rien fait. Mais des fois on en veut à Dieu, et alors que lui c'est un bon papa, il est parfait. Et ça a été vraiment un processus. Mais des fois dans nos situations, on croit que Dieu permet. Mais Dieu c'est un bon papa et il veut pas du mal. Il veut pas que t'aies un accident pour se faire prendre une bonne leçon. Il veut pas te faire perdre un enfant prématurément pour te faire prendre une bonne leçon. Dieu, c'est un bon papa. Il faut qu'on réalise. Et des fois, ça prend du temps. Mais si cet après-midi, ça te parle, et que tu, dans cette situation, tu dis, Dieu, il a permis, parce que X ou Y raison, c'est pas la vérité. Et tu dois lui demander pardon. Et c'est puissant aussi de recevoir le pardon de Dieu.
Merci beaucoup. Darlène, merci beaucoup. C'est vrai que c'est difficile, on a tous des perceptions de Dieu particulières et très personnelles. Hein. Et c'est pour ça qu'on doit être renouvelé dans notre intelligence sur l'image qu'on a de Dieu, parce qu'elle détermine notre relation d'intimité avec lui. Tu vois ? Donc, il y a aussi... Adèle, qui a un magnifique témoignage par rapport à la demande de pardon à ses enfants. Moi, je sais que souvent, les mères, elles viennent vers moi et elles me parlent de leurs enfants avant de me parler d'elles-mêmes. Elles me disent « Ma fille, ça va pas, il y a ça, mon fils, ça va pas. » Puis des fois, je les ai en entretien et puis tu as l'impression qu'elles veulent un entretien pour leurs enfants. Puis je leur dis « Mais c'est toi qui es en face de moi, donc parle-moi de toi et puis sache que tout ce que tu vas faire pour toi, déjà, ça va naturellement couler sur tes enfants. Et puis, je leur dis aussi souvent, tu as un pouvoir que tu ne soupçonnes pas même si tu as fait plein d'erreurs avec tes enfants, tu as le pouvoir de demander pardon. Et ça, c'est très puissant. C'est très puissant, on ne se rend pas compte hein, en tant que parents. Des fois, on ne sait pas pourquoi nos enfants ils prennent des distances avec nous. On ne sait pas pourquoi. Mais on a toujours un rôle déterminant. On a joué un rôle déterminant dans leur vie. Et autant on peut les impacter négativement, autant on peut transformer leur vie en leur demandant pardon. Parce que des fois, c'est tout ce qu'ils attendent. Mais après, ils ont besoin de savoir aussi si c'est pour de vrai. Donc il ne faut pas, quand on demande pardon, on y met tout son cœur, on y met toute son attention. Puis si on demande pardon de ne pas avoir été assez attentif, ben après on s'attache à l'être. Hein ? Il faut que l'amour, c'est des actes. Ce n'est pas juste des belles paroles. Tu vois ? Puis en plus, on a tous un langage d'amour différent. Donc on a besoin de savoir comment est-ce que l'autre reçoit mon amour ? Pas comment moi je le désire, mais comment lui il en a besoin. Par exemple, moi mon père, il était facilement, il me prenait dans ses bras, donc il m'aimait. Hein. Mais moi, j'ai pas reçu son amour parce que mon langage d'amour c'était des temps de qualité. Et mon père, il s'est jamais arrêté avec moi pour écouter mon cœur, même regarder, genre savoir, s'intéresser à l'être intérieur en fait. Tu vois ? Qui c'est qui a le langage d'amour des temps de qualité ? Voilà, c'est difficile quand tu as 6 enfants d'avoir du temps de qualité avec tous les enfants. Là, c'est difficile. Et moi, je réalise qu'il y en a. Je dis, j'espère que lui, son langage d'amour, c'est pas les temps de qualité. Eh ben oui. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu pleures ? Ou tu demandes pardon ? Puis tu essaies de réparer. Tu essaies de dire, ben, moi, intentionnellement, je vais prendre du temps qu'avec lui. Bon, ça, quand tu as toute la marmaille des petits, là, c'est difficile. Hein. Mais tu peux toujours te rattraper après. C'est jamais trop tard avec Jésus. Dis à ton voisin, c'est jamais trop tard. Jamais trop tard. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. D'accord ? Donc, je vais partager le témoignage. Enfin, c'est Adèle qui va partager son témoignage. On peut l'applaudir. Un magnifique témoignage avec ses filles.
Ah, c'est impressionnant quand même, hein, on est mieux assis là-bas. ben voilà, donc je m'appelle Adèle, je me suis mariée très très jeune, à 19 ans, pour fuir la maison. Je me suis mariée sans savoir ce que c'était, ni l'amour, ni la sexualité. Et ça a été un mariage très 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 compliqué. J'avais aussi un mari qui se promenait toujours tout nu. Moi j'avais beau lui dire d'arrêter, mais il avait trop, voilà, il fallait surtout pas que je lui dise ça, il le faisait encore plus. De ce mariage, on a eu 2 filles, dont j'ai été très fière, mais c'est très vite qu'elles ont quitté la maison. Moi, j'ai pensé, parce qu'elles ne s'allaient pas du tout avec leur père, c'était depuis tout bébé, ça a été très conflictuel, il était très violent, il fallait l'obéissance, pas de dialogue. Donc ça a été très, très, très compliqué. Donc mes filles sont parties très vite de la maison et moi, après presque 30 ans de mariage, on a dû se divorcer. Donc c'est pas moi qui ai voulu le divorce, c'est lui. Et on s'est divorcé. Puis voilà, la vie a continué. Et puis il y a ma fille, la deuxième, elle est du 20 janvier. Et il y a exactement 5 ans, en principe, on va toujours dîner ensemble le jour de son année. Et en sortant du restaurant, elle me regarde et elle me dit « Maman, je suis dans un chemin de pardon avec toi. Tu ne nous as pas protégés de papa. » Et là, j'ai cru qu'il y a tout qui me tombait dessus. Ma première idée, c'était de répondre à ma fille et dire « Enfin, mais Nat, qu'est-ce que tu me racontes ?» Et j'ai tout de suite entendu Dieu me dire « Écoute, prends ce que ta fille te dit et ne réponds pas. » Donc j'ai juste dit à ma fille « Ok, je veux voir. » Et on s'est quitté, on s'est embrassé, on est quitté. Mais moi, je peux pas vous dire dans quel état je suis montée dans ma voiture. Dans quel état je suis arrivée chez moi, j'avais l'impression qu'il y a tout qui allait exploser en moi. Et je suis arrivée chez moi et j'ai fermé ma porte à clé. Et là, vous savez, je ne suis pas quelqu'un du tout de colérique, mais là, je ne me reconnaissais pas. J'ai hurlé et la première chose que j'ai dit à Dieu, à Jésus, j'ai dit tu pars, je ne te veux pas en moi, tu me quittes. Je me sentais tellement trahie. J'ai dit, mais je t'ai donné ma vie, j'ai toujours fait confiance. Tu as tout été pour moi. Et là, j'ai senti mais une trahison de la part de Jésus. Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi tu as permis ça? Pourquoi tu n'as pas... Mais c'était... J'arrive pas à vous dire dans quel état mon cœur était. C'était juste... Je crois que je pouvais, dans mon salon, voir Jésus à côté. J'ai dit, ne m'approche surtout pas, je ne veux pas de toi. Et tout d'un coup, il y avait tout qui me revenait, les images de ce qu'on avait vécu. Et j'avais dit, mais comment est-ce que je n'ai pas pu? Et c'est même pas ça, mais c'est que je me disais, mais pourquoi tu n'as pas protégé? Pourquoi tu ne m'as pas dit? C'est que dans ma tête, ça m'était impossible de comprendre qu'il avait fait ça à mes filles. J'ai dit, mais il ne peut pas abuser. Pourtant, j'étais déjà ici. On était déjà dans Caleb, dans tout ce qui est les abus. Alors, je pouvais comprendre chez les autres. Mais là, que moi, je n'ai pas vu, c'était juste... Donc, j'ai vécu 2 jours, mais vraiment dans ces salons, à hurler, à pleurer. J'arrive pas à vous expliquer ce que j'ai vécu. Et c'est vrai qu'au bout de 2 jours, presque et demi, je savais que j'avais qu'une solution pour pouvoir continuer ma vie. Je me disais, ou tu t'ôtes la vie, Adèle, ou alors, maintenant tu avances avec Jésus. Et dans toutes mes larmes, j'ai dit à Jésus, mais pourquoi? Pourquoi te l'as permis? Mais cette fois, j'étais quand même plus calmée. Et là, c'est vrai que donc, on travaille beaucoup dans toutes les générationnelles. J'ai pu voir tout ce qu'il y avait dans ma lignée, du côté de ma maman, mais aussi tout ce qu'il y avait dans la lignée de mon mari. Où il y avait et il y a encore de l'inceste, il y a vraiment énormément de ces choses-là. Donc tout d'un coup, j'ai compris pourquoi. Et là, c'est vrai que je crois qu'à ce moment-là, mon mari était déjà décédé, mais je vous assure qu'avant, s'il avait été vivant, sincèrement, je ne sais pas de quoi j'aurais été capable. Parce que la rancune, la haine que j'avais en moi, et là, de dire à Jésus, mais reviens, parce que si tu n'es pas avec moi, je ne pourrai pas continuer. Je ne peux pas continuer la route. Je peux absolument rien faire. Mais après, il fallait que je lui demande pardon. Et ça m'a été difficile. Comment est-ce que moi, qui j'aimais tellement mon Jésus, le seul qui m'aidait à vivre toutes ces années, une telle violence de ma part, j'ai vraiment pleuré pour lui demander pardon de mon attitude, parce que je comprenais, comme Darlène vient de le dire, que c'est un bon papa, qu'il m'aimait, qu'il aimait mes filles et qu'il n'avait jamais voulu ça. Jamais il avait voulu ça. Donc j'ai dû lui dire de venir, je lui ai vraiment demandé pardon, mais j'ai dit, mais reviens, parce que je ne peux pas vivre sans toi et maintenant il faut que tu m'aides à faire la suite. Et de là, le deuxième pardon que j'ai dû, c'était mon mari, même s'il était déjà décédé, de pardonner. Et ça m'a été difficile. Qu'un père ait pu faire ça à ses filles, à mes filles, là, j'ai vraiment dû... Ça m'a été difficile. Même qu'il était décédé. Et là, j'ai demandé pardon. J'ai pu lui pardonner. Mais il y en avait encore d'autres. Pardon. Après, il y avait mes filles. Mais là, je ne pouvais pas juste dire... Je vous demande pardon, je vous pardonne. Ah ouais, merci. Merci, Darlene. Je ne peux pas dire juste à mes filles, mais je vous demande pardon, je n'ai pas vu, je n'ai rien compris. Et là, j'ai dit, Jésus, il faut que tu m'aides, parce que là, je ne sais pas comment il faut faire. Donc, j'ai pris un cahier, et j'ai dit au Saint-Esprit, aide-moi. Et là, j'ai rempli 4 pages de pardon. 4 pages que lui m'avait données. Et une fois que j'ai écrit ça, après, il y avait « me pardonner moi-même ». Et ça, je n'ai eu des larmes, parce que je n'arrivais pas. J'ai dit « mais comment tu n'as pas vu, Adèle ?» Mais la souffrance, tout d'un coup, je voyais toutes ces années, toutes les fois où mes filles, il y a eu des problèmes, et je disais, mais c'est toi la coupable, Annelle. Tout ce que tes filles ont vécu, c'est à cause de toi. Et me pardonner, ça, ça a été un sacré. Je ne peux même pas vous dire, j'ai énormément pleuré, ça a été terrible pour moi. Alors que j'entendais Jésus me dire, mais je t'ai déjà pardonné, Adèle. Mais entre ce que Jésus me disait et puis ce que mon cœur ressentait, il y avait vraiment quelque chose d'énorme. Mais au bout d'un grand, grand moment, avec beaucoup, beaucoup de larmes, j'ai vraiment plié le genou et me sentir. J'arrive même pas à vous dire, j'ai pu sentir tellement cet amour du Père me dire, mais je t'aime tellement, Adèle. Et j'ai toujours été là pour toi. Donc, après, une fois que tout ça était fini, j'ai envoyé un message à mes filles. Et j'ai dit, mais j'aimerais vous voir toutes les deux. Alors, j'ai des filles qui sont, ben, comme tout le monde, hein, très occupées. Et là, c'était un mercredi. Et le vendredi, elles étaient là toutes les deux. Et là, pour moi, c'est vrai que j'avais envoyé un petit WhatsApp avec les Déborah. Je me rappelle que j'avais envoyé un message, j'ai dit « priez pour moi » parce que pour moi c'est vraiment difficile ce moment. Et je me rappelle qu'il y en a une, je ne sais plus laquelle c'était, qui m'avait dit « tu sais Adèle, je sens qu'il y en a une de tes filles qui va avoir une parole prophétique. » Donc voilà, mes deux filles sont venues, puis je leur ai demandé de s'asseoir en face de moi, puis j'ai dit « mais s'il vous plaît, ne m'interrompez pas, je voudrais que vous puissiez m'écouter. » Et là, j'ai pu dire tous mes pardons. Les quatre pages, ça a été un moment où toutes les trois ont pleuré, où c'était vraiment compliqué, mais c'était beau. Je sais pas, c'était magnifique et douloureux, mais bon. On pouvait sentir comme si vraiment il y avait cette puissance de l'amour de Dieu qui était là sur nous. C'était vraiment beau. Et c'est vrai qu'une fois que j'ai fini de parler, j'ai ma fille aînée qui s'est levée. Mais vraiment comme une flèche, puis elle a dit, aujourd'hui, il y a une porte de bénédiction qui s'ouvre sur notre famille. Et on s'est levé les trois, on s'est pris dans les bras. Elles m'ont vraiment dit qu'elles me pardonnaient, moi aussi. Et puis là, il y a ma fille, la petite, qui a eu une parole, elle a dit, mais maman, au-delà de tout ce qu'on a vécu, on te dit merci. Parce que sans tes prières, on ne serait pas là. Et t'as tes trois petits-enfants qui sont engagés, baptisés, qui suivent le Seigneur. Alors oui, il y a une bénédiction, ça a été dur, très très difficile, mais la relation qu'on a maintenant, et puis il y a aussi le rachat, la vengeance de Dieu. Il n'y a pas longtemps, là, cette année, donc c'est tout frais ce que je vous raconte en plus, j'ai ma fille aînée donc, qui habite, depuis quelque temps, là, dans le village où on a vécu tout ça. Et oui, pardon, il faut encore que je vous dise quelque chose, que ça, il n'y a pas longtemps que je l'ai vécu. Tout d'un coup, j'ai réalisé que je devais pardonner à l'Église. À l'Église qui avait vu sans vouloir voir, parce que j'avais un mari qui était très beau, très flatteur, très séducteur. Et c'était ma faute, la faute de mes filles, mais ce n'était jamais la sienne. Et j'en ai vraiment voulu à l'Église. De ne pas nous avoir protégés, de ne pas avoir pris la seule fois que j'ai voulu dire que c'était difficile, pour seule réponse de mon pasteur, j'ai eu « Adèle, tu dois te soumettre à ton mari. » Donc, voilà. Du coup, après, j'ai plus jamais parlé, j'ai plus jamais rien dit. Et là aussi, j'ai dû plier le genou et demander pardon. Pardonner à l'Église, pardonner au pasteur, au responsable, pour ce que j'avais vécu. Et ma fille qui habite maintenant dans ce village, elle m'avait dit, maman, il y a une année, elle m'avait dit, maman, quand j'ai demandé à Jésus, pourquoi tu m'as amené ici? Et Jésus lui avait dit, je veux racheter ton passé. Parce qu'elles avaient vécu vraiment des choses compliquées. Et pas plus tard que cette année, elle avait un souper avec la commune et les églises. Et elle s'est trouvée devant deux femmes qui vraiment ont été très méchants avec nous. Et c'était deux leaders de l'Église. Et tout de suite, elles ont un peu attaqué ma fille. Et ma fille leur a dit, mais vous ne savez pas du tout ce qu'on a vécu. Et là, pour la première fois, ma fille a pu parler. Et ces deux femmes C'est Sonia, je nous, ils ont demandé pardon à ma fille. Ils ont dit, mais on te demande pardon, on ne savait pas du tout ce que vous avez vécu, on te demande pardon. Puis ils avaient dit, on dirait dire à ta maman, puis ma fille a dit, ah non, non. Vous le dites, vous, à ma maman. Parce que ma maman, ça a été très, très difficile pour elle. Donc, je me rappelle que ça rentrant du Canada cette année, que j'avais un mot de ces deux femmes et qui m'ont dit, Adèle, est-ce que tu peux venir? On aimerait te voir, s'il te plaît. Et comme je savais déjà de quoi, donc j'ai été. Et là, elles m'ont vraiment demandé pardon. Mais ça a été plus que du pardon parce qu'elles m'ont dit tout ce qu'elles avaient vécu avec mon mari puis ce qui s'était passé. Alors, plus ou moins, on le savait, mais là, c'était de leur bouche qu'elles le disaient. Et elles m'ont demandé pardon. Et là, ça a été aussi un moment béni où je pouvais accueillir leur pardon et les pardonner. Et ça a été vraiment glorieux. Et c'est pour ça que j'ai dit, mais le pardon, il va encore plus loin parce que Dieu rachète. Dieu rachète nos passés. Dieu rachète là où il y a eu des choses tellement difficiles où on n'a pas été compris. Mais Dieu le fait et Dieu les rachète. Alors, je vous bénis, que ça, c'est vrai que j'ai dit toujours, le pardon, c'est un élixir de vie, un élixir de beauté, un élixir d'amour et de paix.
Merci. Merci, merci. Il faut chérir ces témoignages, hein, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Donc, merci Darlène, merci Adèle. C'est vrai qu'on est toujours dans ce challenge de résister au piège de considérer Dieu comme l'agresseur. Hein? Parce que moi, j'aime bien parler des héritages spirituels parce que ça explique tellement de choses. Et ça sort tellement les gens de leur... de se dire, bah, Dieu, il a fait ci, il a laissé faire ça, c'est lui qui a fait ci, c'est lui qui a fait ça. Mais c'est comme les non-chrétiens qui disent, mais si Dieu existait vraiment, s'il était vraiment bon, pourquoi les guerres, pourquoi toutes ces choses horribles? Ben parce qu'il y a un ennemi dans l'histoire. Le monde veut nous faire croire que le diable n'existe pas alors qu'il est partout, partout, visible, plus que visible, dans tous vos feuilletons Netflix. Hein? Mais Dieu, il est surpuissant. Hein? C'est pas, le diable n'est pas l'équivalent de Dieu, du tout. C'est une créature déchue. Et Dieu règne. Mais il règne, mais il est soumis aux lois qu'il a lui-même établies. Donc c'est pour ça que c'est très important de connaître les principes de Dieu. Si on ne veut pas être déçu, on doit connaître les principes. Comment Dieu fonctionne? Comment toucher le cœur de Dieu? Comment le mettre en action? Tu sais, il y a des choses qui touchent le cœur de Dieu en particulier. Mais en tout cas, le pardon s'en est une. La réconciliation s'en est une. Ça attire Dieu à nous. Ça attire son regard. D'accord? Ça va là, ça fait son chemin? Pardon, est-ce que vous considérez maintenant là que c'est une bonne nouvelle? Que c'est un gain? Que c'est un cadeau? Que c'est une solution? Que c'est une clé? Le pardon, c'est majeur dans nos vies. Donc, voilà. Donc, j'aimerais aborder la question du Père, parce qu'elle est très importante, cette question-là. Et puis, vous rappeler, comme je l'ai déjà dit un petit peu avant, c'est que la perception que nous avons de Dieu le Père est directement connectée à la perception que nous avons de notre propre Père. On n'en a pas conscience, mais c'est vraiment une réalité. Et donc, c'est important la figure du Père, parce que le Père, ça représente aussi toute forme d'autorité. Quand Dieu dit « Honore ton Père et ta Mère » pour que tu vives de longs jours sur les territoires que Dieu te donne, ben là, on découvre un principe de Dieu encore, hein, très important, c'est que l'honneur libère la vie. Mais si Dieu nous demande d'honorer la figure du Père et la figure de la Mère, c'est parce que c'est Dieu se cache derrière. Et pourquoi Dieu nous demande de nous soumettre aux autorités? C'est parce que Dieu se cache derrière. dans le rôle qu'il a. Dieu, c'est l'autorité ultime. Et puis le rebelle, l'esprit de rébellion, c'est typiquement un esprit mauvais. C'est typiquement l'ennemi. L'ennemi, ce qui l'a fait chuter, c'est l'orgueil qui l'a poussé à la rébellion. Donc l'orgueil et la rébellion, c'est ultra démoniaque. Mais c'est le piège, c'est la solution que l'ennemi te donne pour réagir. C'est la tentation, c'est la séduction. Donc, on a tous besoin d'être réconciliés avec le Père, d'être réconciliés avec les figures d'autorité, et notamment, qu'est-ce qui se cache aussi derrière le Père, ce qui est très intéressant, c'est Mammon. Je vous explique pourquoi. Mammon, c'est quoi? C'est l'argent. Et puis Jésus dit, tu ne peux pas servir deux maîtres. C'est ou tu sers Dieu, ou tu sers Mammon. Mais c'est intéressant de comprendre en fait que Mammon, il va te promettre les mêmes choses que Dieu te promet ultimement dans la vérité. Dieu le Père, enfin en psychologie on le connaît ça, on connaît ce principe, c'est que c'est le Père qui établit ses enfants dans leur identité, et notamment sexuelle. Si aujourd'hui c'est la confusion générale au niveau de l'identité sexuelle, c'est parce qu'il n'y a plus de père dans les maisons, il n'y a plus de père dans les foyers, donc il n'y a plus d'établissement identitaire. C'est pour ça que les filles, elles savent plus si elles sont des hommes, des filles, s'ils ont de la valeur, plus de valeur. L'homme, il n'a plus de modèle, donc il est perdu. Ce n'est plus vraiment un homme. Hein? Il faut récupérer toutes ces identités. Et aussi, si tu es coupé de ton père et de ta mère, tu es coupé du masculin et du féminin. Et des fois, justement, quand tu as la haine des hommes, ou la haine du père, eh ben, tu vas... tu vas rejeter le masculin et le féminin. Ce que je veux dire, c'est que ça explique beaucoup de choses, notamment concernant l'homosexualité. Il y a toujours une raison qui se cache derrière ce concept. Et même plusieurs raisons qui sont expliquées en détail dans le magazine. Donc je ne vais pas vous expliquer en détail tout sur ce sujet-là, mais tout ça pour dire qu'on a besoin du père. Parce que le père va dire à sa fille, tu as tellement de valeur que je ne vais pas laisser un garçon s'approcher de toi sans qu'il passe par moi. C'est pour ça que les hommes, là, les hommes qui sont là, ils doivent aller demander la main de leur bien-aimé au père. Oui, vous allez faire ça? Hein, ils me regardent genre... Ben oui. Hein? La bande de gangsters, vous allez demander la main. Et vous êtes déjà mariés. Mais vous l'avez fait? Ah. Parce que vous pouvez toujours faire rétroactif. Hein, si vous avez... C'est comme l'URSSAF, tu sais, ils te remboursent rétroactivement. Parce qu'il y a une bénédiction cachée là derrière. Tu ne veux pas la rater. Tu veux aller la récupérer. Donc, comme je disais, c'est le père qui établit ses enfants dans leur identité, notamment sexuelle. Ultimement, c'est Dieu le Père qui nous établit dans notre vraie identité. Comme je vous disais ce matin, quand Jésus est sorti des eaux du baptême, une voix qui naît du ciel, c'était celle de Dieu le Père qui a dit « Celui-ci est mon bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et après, il a été tenté dans le désert, il a confronté l'ennemi et après, il a été propulsé dans son ministère. Gédéon, la même chose. Gédéon, vous vous rappelez, les hommes? Gédéon, lève-toi Gédéon. Dieu dit à Gédéon, l'ange de l'Éternel dit à Gédéon, vaillant héros, je t'appelle, vaillant héros, tu vas aller dégommer Madian et sauver le peuple d'Israël. Il commence par lui dire, vaillant héros, il lui dit qui il est, et il va s'attacher à ce qu'il devienne ce qu'il a dit. Il fait la même chose avec vous. Il vient vous prendre où vous êtes, dans l'état où vous êtes. Il va dire, toi, t'es ma fille bien-aimée. Et il va faire de toi sa fille bien-aimée. Il va te sortir de ces fausses identités qu'on t'a collées comme des étiquettes. Hein, t'es nul, t'arriveras à rien. Tes profs à l'école, ils t'ont dit ça. t'arriveras jamais à rien, t'es qu'un nul, c'est ce qu'on disait à mon mari par exemple, qui s'est fait lui-même humilier devant toute sa salle de classe où la prof a demandé à ses meilleurs copains de l'insulter et de lui lancer des papiers à la figure. Sympathique comme éducation, hein. Donc Julien, il s'en rappelle toute sa vie, ça. Donc quand Dieu le Père, il vient le visiter, hop, il le ramène dans ce souvenir-là où il a cru au mensonge qui n'avait pas de valeur. Et Jésus vient rétablir la vérité. Ça, c'est la guérison des souvenirs. C'est magnifique. On va faire une petite activation par la suite. Parce qu'on a tous des événements traumatisants comme ça qui nous ont formatés à un moment donné. Donc le Père, il te récupère. Ça rime. Le Père, il te récupère. Ça, c'est l'esprit d'adoption. Il vient te rechercher. Pas que ça, comme s'il n'était pas ton créateur et ton père à l'origine. Parce qu'il l'est. Mais il te récupère. Parce que des fois, il y a un petit malentendu au niveau de l'adoption. Parce qu'en général, quand on adopte un enfant, il n'est pas de notre sang. Mais quand Dieu il vient nous adopter, on est déjà sa créature merveilleuse. Mais on s'est égaré sur le chemin. Donc le Père, il te récupère. Il te récupère, le Père. Donc ton Père, il était imparfait. Il a fait ce qu'il a pu. Il a donné ce qu'il a reçu. Mais s'il n'a rien reçu, il n'a rien donné. Hein, il était peut-être, comme je disais, violent verbalement, violent physiquement. Peut-être qu'il t'a agressé de différentes manières. Il a été incapable de te valoriser, incapable de t'établir dans ta vraie identité. Il était incapable de parler, incapable d'exprimer ses émotions. Il était maladroit. Il était tout ça. Et donc toi, aujourd'hui, inconsciemment, tu as l'impression que Dieu le Père, il est un peu comme ça. Même si tu n'arrives pas à te l'avouer à toi-même, même si tu n'en as pas conscience. Souvent, moi, j'explique ça des fois. Et puis, on dit, ah, bah, pas du tout, moi, je me sens aimée par le Dieu le Père. Alors, c'est fantastique. On te sort un peu des réflexes religieux comme ça, ou des phrases toutes faites. Mais si tu creuses un peu, il y a des béances. Et puis, Jésus, il s'intéresse à nos profondeurs. Il ne s'intéresse pas à la surface. Il s'intéresse à nos profondeurs et à la racine. Parce que si on veut porter du fruit, il faut que les racines elles soient saines, n'est-ce pas? Donc, si ton père était distant, tu vas croire au mensonge que Dieu le Père, il est distant. Si dans ta fratrie, ton père il préférait les garçons que les filles, tu vas penser que Dieu il fait un petit peu du favoritisme comme ça. Il préfère les garçons que les filles. Puis ça, c'est très marqué dans les familles musulmanes, par exemple. Très marqué. Le fils, il peut tout faire. La fille, elle peut rien faire. Hein ? Le fils, c'est un dieu. Et la femme, sa servante. Donc ça te parle ? Ton père, il n'était pas parfait. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu le Père, il est parfait. Donc pour arriver à être reconnecté dans l'intimité avec Dieu le Père, parce que c'est ce dont on a besoin, et puis je vous explique qu'il y a un transfert qui doit se faire, et on doit tous le faire. C'est que nos parents sont souvent des idoles. C'est-à-dire qu'on attend inconsciemment des choses de nos parents. On attend d'être reconnu enfin, on attend d'être aimé enfin, on attend d'être valorisé enfin, on attend des choses... Parce qu'on considère que c'est des idoles, comme c'est des dieux qui peuvent nous donner des choses qui sont absolument incapables de nous donner, n'est-ce pas? Et tu regardes le moteur de la vie des gens, c'est souvent le père, enfin que mon père soit fier de moi. Tu regardes This is the Voice, si tu as regardé une fois, je sais pas. Ils disent tous, à un moment donné, je fais ça pour mon père, pour qu'il soit fier de moi. Oui ou non? Ils disent tous ça, parce que c'est le moteur de notre humanité, hein. Donc on doit tous, à un moment donné, couper le cordon ombilical avec notre père et notre mère pour nous attacher avec Dieu le Père, avec le Saint-Esprit, avec Jésus. Ce cordon ombilical, c'est ce qui nous donne la vie. Donc tu dois être connecté à la bonne source. Mais ce transfert-là, ce changement, on doit tous le faire à un moment donné. Donc on doit tous travailler la blessure du père, la blessure de la mère, la blessure des frères et sœurs, des amis, des maris... pour s'attacher dans l'intimité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Hein ? Vous pensez peut-être que Sandra, elle essaie d'amener de la psychologie dans l'Église, mais non, les psychologues ne vont jamais vous dire ça. Mais c'est vrai, ça, c'est fou. Hein. Tu vois ? Ça fonctionne. Et puis on veut être proche de Dieu, parce que l'ultime, de manière ultime, Jésus veut qu'on soit un avec lui. Il veut qu'on soit un avec le Père, il veut qu'on soit un avec le Saint-Esprit. C'est l'objectif, hein, c'est l'intimité, tu vois bien. C'est l'intimité, c'est l'amour, c'est ça. Tout découle de ça. Tout découle, ta vie chrétienne découle de ton intimité avec Dieu. Alors déjà, le challenge, c'est d'avoir de l'intimité avec Dieu. Mais c'est sûr que quand tu te retrouves, tu sais, en train de lire ta Bible, prier, on t'a dit, il faut passer du temps d'intimité avec Dieu. Tu dis, oui, je vais le faire, je vais le faire. Tu pries, tu cherches ta Bible, tout ça, puis t'es là, qu'est-ce qui se passe? Comment je fais pour être intime avec Dieu? Donc déjà, si t'es sous l'addiction, sous du péché, tu vas être dans la honte, donc automatiquement coupé de Dieu. Parce que tu ne te sens pas digne, tu ne te sens pas légitime. Donc c'est compliqué. Donc le challenge, c'est de récupérer cet endroit d'intimité avec Dieu. On est d'accord ? Tout découle de ça. Quand tu es intime avec Dieu, tu es capable d'entendre sa voix et tu es capable de lui obéir parce que tu te sens aimé. Pour obéir à Dieu, il faut se sentir aimé. Tu ne peux pas obéir à un tortionnaire. Voilà. Donc tu dois découvrir cet amour du Père. C'est l'amour le moteur. Hein, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour ton bien-aimé terrestre, déjà ? Tu es prêt à braver la tempête, tu es prêt à dépenser une fortune pour une bague, tu es prêt à lui payer le restaurant, tu es prêt à... Hein ? Moi, j'étais prête à sauter des 10 mètres depuis un rocher, comme jamais j'aurais fait une chose pareille. Des choses comme ça, on est d'accord ? Le moteur, c'est l'amour. Et ça te fait faire des exploits. Oui ? C'est ce qui a permis à Jésus d'aller jusqu'à l'obéissance de la croix. C'est l'amour, c'est aussi l'espérance de la joie que notre salut allait lui procurer. Oui ? Donc, le travail à faire, il est assez simple. On va demander au Saint-Esprit de nous montrer toutes les offenses qui viennent du Père. Ou du beau-père. Peut-être que tu n'as pas de père, mais tu n'as qu'un beau-père. Donc, le beau-père fait office de père. Ou si tu as été élevé par ton grand-père, ton grand-père, ça fait office de père aussi. Une figure paternelle clé dans ta vie. C'est elle qu'on va cibler. Ah, je n'ai pas fini de vous raconter l'histoire de maman. Je fais une petite pause, petite parenthèse. Dieu le Père, son rôle, c'est de t'établir dans ton identité, de pourvoir à tes besoins et de te protéger. C'est le rôle d'un père et c'est le rôle du père, d'accord ? Mammon, il va te promettre la même chose. Il va te promettre qu'avec de l'argent, tu vas devenir quelqu'un. Il va te promettre qu'avec de l'argent, tu es protégé de tout. Il va te promettre qu'avec de l'argent, il va pouvoir répondre à tous tes besoins. Est-ce que l'argent peut t'amener un mari ? Enfin, c'est plus vrai dans l'autre sens. L'argent peut t'amener une femme. Donc c'est tout des semblants de vérité. Hein. C'est tout ce à quoi on croit si on poursuit Mammon. Mais tu dois choisir. C'est pour ça que quand on traite les racines des problèmes des finances, souvent c'est la blessure du père qui se cache derrière. C'est intéressant, hein? Donc quand on traite le père, on traite l'argent, puis en fait on réalise que l'argent c'est quelque chose de très très profond, connecté au cœur, c'est quelque chose qui veut venir vraiment voler ton intimité. Ça veut voler ta relation avec le père, parce que tu dois compter sur le père pour pourvoir à tous tes besoins. Tu dois compter sur le père pour savoir qui tu es en vérité. Tu dois compter sur le père pour ta protection, parce que t'as beau souscrire à toutes les assurances que tu veux, elles ne pourront pas t'empêcher de mourir. Mais Dieu le Père, il peut. Ben, moi, je dirais qu'il faut creuser un peu plus loin. Ce n'est pas le fait d'être femme seule qui amène une difficulté financière. C'est pourquoi tu te retrouves seule. C'était quoi ton rapport avec ton père, avec les hommes en général ? Parce que souvent, on va choisir des hommes qui ressemblent à notre père. Donc, tu vois, la racine, elle est encore plus profonde. L'argent, c'est un sacré truc. C'est ça que j'aimerais que vous puissiez retenir. Et qu'on a besoin d'être attaché au Père pour être connecté à la bonne source. Et qu'on ne peut pas et faire confiance à l'argent et faire confiance à Dieu le Père en même temps. Tu dois faire un choix. Mais pour faire ce choix, tu dois avoir traité les blessures du Père, parce que sinon tu ne vas jamais choisir Dieu le Père si tu as une mauvaise perception de lui. On est d'accord ? Hein ? Tu ne vas pas te laisser tomber en arrière si tu n'es pas sûr qu'il y a quelqu'un qui te récupère. Donc, tu vas noter toutes les blessures du Père. Saint-Esprit, merci parce que tu montres à chacun, chacune ici dans cette pièce toutes les choses pour lesquelles il doit pardonner à son Père terrestre. Toutes les offenses. Puis tu les notes. Laisse ton cœur s'exprimer. Tu notes. Et laisse le Saint-Esprit te rappeler, te montrer. L'absence. Parce qu'on est offensé par des choses qu'on nous a faites. La violence verbale, physique, etc. Mais on est offensé aussi par les choses qu'on ne nous a pas faites. Il n'était pas présent, il n'a pas parlé, il ne s'est pas positionné, il n'a pas tapé du poing sur la table. Tout ça, c'est des sources d'offense aussi. Donc, je vous le dis comme ça, vous savez, le manque, c'est aussi une offense. Les choses qu'il devait dire, il devait faire, qu'il n'a pas faites, c'est grave aussi. Donc, vous notez tout ça sur votre petit carnet, là. Vous notez, 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 notez. Saint-Esprit, merci parce que tu viens éclairer tout ce qui a besoin d'être mis en lumière. Tu viens le mettre en lumière maintenant. Le Père. Le Père, le Père, le Père. Et après, quand le Père, c'est une figure d'autorité d'Église, ça se corse encore plus. Parce que du coup, il était encore plus responsable d'être à l'image de Dieu. Donc, on doit aussi le pardonner des choses supplémentaires. Hein ? Oui ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est lui, il a fait ce qu'il a pu avec les moyens qu'il avait. Mais nous, on s'attache aux offenses. Parce que, mais c'est très bien ta question, votre question, pardon. Parce que vous devez savoir une chose, c'est qu'il y en a qui seront totalement incapables de noter quoi que ce soit de dérangeant sur leurs parents, comme si c'était des intouchables. Les parents sont intouchables. Je ne peux même pas reconnaître leur tort. Et puis, il y en a qui seront hyper accusateurs où, en fait, c'est la faute de mon père totalement. Le malheur de ma vie, c'est à mon père entièrement. Donc, moi, ce que j'aimerais vous sensibiliser au fait qu'on ne s'attache pas à la personne du père, là, mais on s'attache à l'offense. Parce qu'en fait, l'offense, elle est liée au rôle du père. Donc toutes vos blessures identitaires, toutes vos blessures de provision et notamment d'argent, toutes vos blessures de protection, il faut les lister. Parce que les offenses sont liées aussi au rôle de la personne. Donc le père, on le bénit, il a fait ce qu'il a pu, enfin tu vois, on peut lui donner toutes sortes d'excuses, bien sûr. Ah. Oui. Oui. Ben, toi, tu souffres du manque du Père. Un énorme manque. Donc, c'est ce que j'expliquais juste avant, c'est qu'on est autant offensé par ce qui a mal été que par le manque. 9 mois. Mmh. Oui. Mmh. Ben voilà. Ben. Ben voilà. Ben comme ça, tu nous exprimes bien une réalité que je vous enseigne. C'est que notre réalité terrestre, elle est collée sur notre perception de Dieu. Donc on va y revenir, c'est très important. Toutes tes offenses, c'est t'étais pas là quand je me suis mariée, t'étais pas là quand j'ai eu des enfants, t'étais pas là pour me dire la valeur que j'avais, t'étais pas là pour m'établir dans mon identité. Ton absence m'a blessée toute ma vie. J'ai eu que des photos de toi alors que j'avais besoin que tu me serres dans tes bras, j'avais besoin que tu m'entoures, j'avais besoin de la chaleur de ton affection, j'avais besoin de ton regard, tu vois. Tout ça, tu notes. Voilà, et je voulais te connaître en face à face et je ne voulais pas juste entendre parler de toi comme Dieu. Je veux te rencontrer en face à face, Dieu, je ne veux pas juste entendre parler de toi. Donc tu notes tout ça, bien sûr. Voilà, Dieu, on a besoin de le rencontrer. Le psaume, je ne sais plus exactement lequel, il dit « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon ». Donc Dieu, il se demande à être expérimenté, vécu. L'amour, ça se vit, c'est pas un concept intellectuel. Hein, est-ce que tu aimes, t'as bien aimé, c'est ta femme, ta fiancée? T'as bien aimé? Tu vas la demander en mariage? Oui, c'est bien. Ouais, pas trop près, attention. Hein. Donc, tu t'es acheté le pull Fear of God? Ah, c'est bien, parce qu'elle veut que tu aies la crainte de l'Éternel. Parce que pour être un bon mari, il faut avoir la crainte de l'Éternel. C'est bien. Donc, ce que je voulais dire. Donc toi, tu vas être père. Vous m'avez posé une question, pourquoi je vous parle? Je ne sais plus. Non, ils n'ont pas posé de question. Oui. Donc tu vas demander sa main à son père. Ah, c'est déjà fait. On peut les applaudir. Ah ouais, tu savais ça? Oui. Est-ce que ton père, il t'a dit, attention ma fille, t'as tellement de valeur que je vais pas laisser n'importe qui t'approcher, il va falloir qu'il passe par moi avant. Qu'il aurait pas pu être quoi? Ah, ça c'est bien ça. Il aurait pas pu espérer mieux. C'est déjà une bonne parole d'un père. Ah, alors il faut lui pardonner. Note. Hein, il a essayé de se racheter, peut-être, comme ça. Hein, nos parents, on les bénit. Il faut se rappeler juste qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens qu'ils ont eus. Puis ils ont fait souvent très maladroitement. Hein. Puis souvent, beaucoup de violence, beaucoup d'injustice. Mais nous, ce qu'on veut, parce que le pardon, c'est ça que ça fait aussi, ça brise les cycles. Hein? Parce que tu deviens celui que tu haïs. Tu deviens celui que tu haïs. Puis je vais vous parler d'une chose, c'est des vœux. Tu sais, quand tu dis « jamais je serai comme mon père, jamais je serai comme ma mère, jamais de la vie, loin de moi cette idée. » Et ben, quand tu dis ça, tu es en train de faire un vœu. Ce qui est décrit, ça, c'est tout un chapitre, enfin, c'est pas un chapitre, c'est une page dans Ésaïe 61. Tu es en train de faire un vœu et tu es en train de faire un pacte avec la mort parce que tu es en train de compter que sur toi-même pour ne pas refaire. Alors que la meilleure façon de ne pas répéter l'erreur de tes parents, c'est de leur pardonner et de briser l'héritage. Mais ce n'est pas en te disant « jamais je serai ». Plus tu dis « jamais je serai comme ma mère », plus tu vas le devenir. Ça te lie, c'est des paroles de malédiction, c'est des vœux qu'il faut absolument briser. Ça te parle? Qui c'est qui a l'impression d'avoir fait un vœu? Ou jamais je me marierai, jamais j'aurai des enfants parce que t'es fâché contre les hommes. Levez haut la main. Voilà, donc les amis, il faut prier. Je vous conduis là tout de suite. Alors on va dire, aujourd'hui, après on reprendra le pardon au Père, d'accord? Aujourd'hui, Jésus, je te demande pardon d'avoir fait ce vœu comme un acte de rébellion. Je te demande pardon d'avoir fait un pacte avec la mort. Aujourd'hui, je renonce à ce vœu, je renonce à ce pacte dans le nom puissant de Jésus et je déclare que c'est toi, Jésus, le maître de ma vie et c'est toi qui vas me faire la grâce de ne pas répéter les mêmes erreurs. Je me confie en toi, Jésus, et je te redonne la conduite de ma vie. je me délie de ce vœu dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, ça, c'est très important. Hein. Si tout d'un coup, le Saint-Esprit vous rappelle un vœu que vous avez fait, vous vous en déliez comme ça. Ce n'est pas compliqué. Hein. Mais la parole, c'est puissant, hein, tu vois. Avec ma parole, je me délie, avec ma parole, je brise, avec ma parole, je pardonne. Je fais plein de choses avec ma parole. Donc, je dois faire très attention à ce que je dis. On est d'accord ? Donc, continuez d'écrire les offenses du Père, les absences. Hein ? Là, je ne vous vois pas écrire. Écrivez. Le Saint-Esprit vous montre. Il vous montre, il vous montre. Vous savez qu'il y a toujours de la résistance à traiter nos problématiques ou à revenir sur nos blessures. Il y a une résistance naturelle. Mais il faut, c'est pour ça que je dis qu'il faut du courage pour confronter ces blessures. Il faut du courage pour revenir aux vieux trucs qu'on ne veut plus jamais voir. Des fois, on préfère déclarer des paroles comme « toutes choses sont nouvelles, le passé est passé, je ne veux pas m'en occuper ». Mais des fois, ce n'est pas des déclarations spirituelles, c'est plutôt de la fuite. Hein ? Alors, il ne faut pas être comme la femme de Lot, pas regarder ce que Dieu nous dit de ne pas regarder. Mais par contre, avec Jésus, on doit revisiter notre passé pour qu'il vienne traiter les mensonges, les malédictions, les vœux et tout ça, pour qu'on soit affranchi et qu'on puisse être intime avec le Père. Parce que c'est là qu'on va porter du fruit. D'accord ? Donc, vous avez écrit toutes les blessures du Père ? Allez, courage ! Le père qui préférait les garçons des filles. Hein ? Le père qui n'était pas là à la maison. Oui. Bien sûr, c'est le rejet. Donc tu souffres de rejet. Donc il faut demander au Père de ne pas avoir accueilli inconditionnellement ses enfants. Parce que j'ai besoin de pardonner à toi, Père, parce que tu m'as constamment rejeté, parce que tu as brisé mon cœur, parce que tu m'as déçu maintes et maintes fois, parce que j'ai essayé, et à chaque fois c'était un échec. J'ai mis des attentes, mes attentes ont été déçues. Donc à un moment donné, il faut faire le deuil, il faut briser l'idolâtrie en fait. Il faut comme renverser des statues. Tu sais ? Quand tu veux briser l'idolâtrie, des fois tu dois renverser une statue qui va se briser en mille morceaux. Parce que tes attentes, tu dois toujours les mettre vers le Père. Et puis des fois, ça peut aider. On peut demander à Jésus de nous montrer notre parent tel qu'il est. Et puis Jésus va se débrouiller pour enlever l'idolâtrie et puis toute l'image grandiose ou tordue que tu te fais de ton père. Et il va te montrer ton père normal comme un être humain. Et en lui faisant perdre toute l'intimidation, tout ce qui est lié à lui. Pour que tu puisses te détacher et t'attacher à Dieu le Père. D'accord ? Il y en a qui ont besoin de faire tomber l'idole là. Ça leur parle ce que je leur dis ? Toujours cette intimidation, on n'arrive pas à être nous-mêmes, en présence du Père. Tu sais, il y a des gens décédés qui ont encore un grand impact sur nous. C'est pour ça qu'on doit pardonner aux personnes décédées, traiter la blessure du Père même s'il est décédé. Très important. Tu t'écris ? Super. Bon. Donc vous avez fini d'écrire là, plus ou moins ? Ok. Donc je vais vous conduire dans le fait qu'on va pardonner. Je vous explique un peu le plan. Après, on va briser les liens d'âme. Briser. Briser, couper le cordon ombilical. Puis après, on va renoncer au mensonge que Dieu le Père, il est comme mon Père. Et on va reprendre offense après offense. Je renonce au mensonge que Dieu le Père, il est incapable de me protéger. Incapable de taper du poing sur la table. Je renonce au mensonge que Dieu le Père, il est absent dans ma vie, qu'on me parle de lui, mais que je ne peux jamais goûter à sa présence. Je renonce. Et puis on va renoncer au mensonge en correspondance avec l'offense. Puis après, on va laisser Dieu le Père nous écrire une lettre d'amour. Alors là, vous écrirez sur votre petit papier et on va demander à Dieu le Père qu'il vous écrive une lettre d'amour que vous-même allez écrire, mais vous allez la recevoir de Dieu. C'est très puissant, c'est pas bizarre du tout. Et il va vous dire des choses merveilleuses qui vont vous établir dans votre identité et qui vont vous permettre de changer de perspective sur Dieu. Ça vous intéresse ? Ça va être fantastique. Attention, mais il faut prendre à cœur hein, tout l'exercice là, pas le faire de manière surfacique. Mais vous n'êtes pas venu pour rien, n'est-ce pas ? Donc on va dire aujourd'hui, avec votre liste, je choisis de pardonner à mon père. Vous essayez de le déclarer là, verbalement, d'accord ? On regarde ni à gauche ni à droite, vous pouvez chuchoter tout ça, mais essayez de le sortir. Je choisis de pardonner à mon père. Je lui pardonne parce qu'il était absent et j'avais tellement besoin de sa présence. Je lui pardonne parce qu'il n'a pas été capable de parler mon langage d'amour. Je lui pardonne parce qu'il ne m'a jamais dit qu'il était fier de moi. Je lui pardonne parce qu'il ne m'a pas poursuivi, il n'a pas été me chercher là où j'avais besoin qu'il aille me chercher. Je lui pardonne parce qu'il n'a pas su me protéger, il n'a pas eu anticipé ce qui pouvait m'arriver. Je lui pardonne parce qu'il m'a laissé seule avec un tel qui m'a agressé et il n'a rien vu, il n'a rien soupçonné alors que c'était son rôle de me protéger. Je pardonne à mon père parce qu'il n'était pas là quand j'avais besoin de lui. Je lui pardonne parce qu'il ne m'a jamais prouvé son affection, son amour. Je lui pardonne parce qu'il était là mais il n'était pas là. Il n'a pas dit les choses qu'il avait besoin d'entendre. Enfin, toutes ces choses, je vous donne plein d'exemples qui sont très communs. Mais je pardonne à mon père parce qu'il ne m'a pas dit quelle valeur j'avais. Il ne m'a pas dit « t'es un bon gars, tu vas y arriver dans la vie, je suis fière de toi, tu vas réussir tout ce que tu entreprends ». Je pardonne à mon père parce qu'il n'y avait pas ces paroles. J'avais besoin de ces paroles pour me nourrir, pour grandir, pour me développer. Je pardonne à mon père parce qu'il m'a traité de femmelette, il m'a maudit, il n'a pas dit les paroles que j'avais besoin d'entendre. Je pardonne à mon père parce qu'il est parti de la maison, il a trahi ma mère, il nous a tous trahis. Je lui pardonne parce qu'il n'a pas su être fidèle et ça m'a désespéré, ça m'a dégoûté, ça m'a mis en colère. Je pardonne à mon père. Parce que son absence m'a plongée dans la drogue, dans l'alcool, dans toutes sortes d'addictions, juste parce qu'il n'a pas su établir la justice dans la famille. Je pardonne à mon père. Je lui pardonne. Des fois, tu sais, c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Mais tu y vas, là. C'est fini, en fait, ce temps-là. Tu t'es en train de transiter dans une nouvelle saison où tu vas t'attacher à Dieu le Père qui lui peut répondre à tous tes besoins, qui lui est toujours là, qui lui est toujours en train de te poursuivre. Sans jamais t'abandonner, la parole de Dieu elle dit « Mon père et ma mère m'abandonnent, mais toi l'Éternel, jamais tu m'abandonneras. Jamais de la vie tu vas faire une chose pareille. » Donc je pardonne à mon père qui m'a abandonné parce qu'il est mort trop tôt. On doit pardonner souvent aux personnes décédées, on ne se rend pas compte, hein, mais on se sent abandonné par des personnes qui décèdent. Alors bien sûr que ce n'est pas de leur faute, mais la preuve que le pardon c'est pour nous et pas pour eux, ben on pardonne. On leur pardonne de nous avoir abandonnés. On leur pardonne de ne pas avoir été là au moment clé de notre vie, on aurait eu besoin qu'il soit là. À notre mariage, à la naissance des enfants, à mon diplôme, à mon concours de foot. Je pardonne à mon père. Faites-le de tout votre cœur parce que c'est hyper puissant. Ça va vous soulager comme jamais. Et puis faites-le encore et encore, chacun individuellement. Je pardonne à mon père, là. Je lui pardonne. Je lui pardonne. Ça va ? Donc on vide la cuve, là. On pardonne. Toutes les faiblesses, toutes les absences, toutes les limitations, toutes les agressions, je pardonne à mon père sa violence verbale, sa violence physique. Je lui pardonne parce qu'il n'a pas vu le trésor que Dieu avait mis dans cette famille. Il n'a pas vu, il était incapable de voir le trésor qu'il avait sous ses yeux. Je lui pardonne. Ça va ? Puis après, on va couper le cordon, vous êtes prêts ? On va dire, aujourd'hui, je brise tout lien d'âme, de corps et d'esprit malsain avec mon père et je tape dans les mains et je coupe toute son influence malsaine sur ma vie. Je lui rends ce qui lui appartient et je reprends de lui ce qui m'appartient. Je pardonne aussi pour toute la sorcellerie, tout l'occultisme qu'il a fait sur moi, ou tous les rituels qu'il m'a poussé à faire pour X et Y choses là. Ça, tout ça, je lui pardonne. Je brise tous les liens d'âme, là, toutes les consécrations, tout ça, j'y renonce dans le nom de Jésus. Je brise tout cet héritage, toutes ces malédictions envoyées sur moi, des sorts, des paroles de malédiction, des choses à boire, à manger, à porter sur moi. Je m'en délie dans le nom puissant de Jésus, maintenant. Et Jésus, montre-moi ce que je dois récupérer de mon Père. Montre-moi Jésus. Montre-moi Jésus ce que je dois récupérer. Et puis alors qu'il te montre, tu peux écrire. Puis en même temps que tu écris, tu dis, Jésus, je récupère de tes mains. Je récupère ma liberté, je récupère ma féminité, ma masculinité, je récupère ma paix, je récupère ma joie, je récupère ma destinée, je récupère ma place dans la famille, ma légitimité, ma royauté. Je récupère plein de choses. Hein, puis tu le dis, je récupère de tes mains, Jésus, tout ça. C'est bon ? Vous êtes toujours avec moi ? On suit, hein ? On suit bien. Donc, tu écris les petites choses que tu récupères, les grandes choses que tu récupères. Tu vois, Jésus, il fait toutes choses nouvelles. Il couvre le péché, il couvre la noirceur. C'est bon, tu as récupéré. Et puis après, on va faire ce qui est très important de faire. J'ai fini d'écrire. On va dire aujourd'hui, je renonce au mensonge. Que toi, Dieu le Père, tu es comme mon Père. Je renonce au mensonge. Que tu n'es pas là quand j'ai besoin de toi. Je renonce au mensonge que tu peux me parler avec violence. Je renonce au mensonge que tu es violent, que tu es injuste, que tu es instable, que tu peux ne pas être fidèle. Je renonce au mensonge que quand tu es là, tu n'es pas là. Écoutez bien, faites bien l'exercice pour prendre toute la portion de la bénédiction. Je renonce au mensonge que toi, Dieu le Père, tu cherches à m'utiliser plutôt que d'être en cœur à cœur avec moi. Je renonce au mensonge que tu veux m'utiliser pour faire des choses plutôt que de t'intéresser à qui je suis. Je renonce au mensonge que tu n'es pas pleinement impliqué dans ma vie, que tu ne t'intéresses pas pleinement à ce que j'aime, ce que je ressens, à mes goûts, mes couleurs. Je renonce au mensonge que quand tu veux me faire des cadeaux, c'est jamais ce que j'aime. C'est jamais à mon goût. Je renonce au mensonge que toi, Dieu le Père, tu peux m'abandonner, me rejeter, ou tiens, incapable de me protéger, incapable de pourvoir à mes besoins, ou que tu peux même me voler, me mentir, me tromper, je renonce à tous ces mensonges. T'as gagné, elle a, en pardonnant à son père, elle coupe les liens malsains avec lui. Voilà. Hein? Et puis l'ennemi aimerait nous faire croire que si on pardonne, c'est comme s'il n'y a pas de justice qui est faite. Mais Dieu, il s'occupe de la justice, t'inquiète pas. Mais toi, fais ta part et remets la justice à Dieu. Il s'en occupe mieux que personne. Même la justice des hommes, elle est très limitée, je vous assure. Hein? Donc Dieu le Père, il n'est pas comme mon Père. Mon Père peut m'abandonner, Dieu le Père ne va jamais m'abandonner. Et Dieu le Père, il veut venir te rencontrer. Je regarde ton nom. Oui. Zélia. Dieu le Père, il veut venir te rencontrer en face à face. Ben oui, c'est ce qu'il va faire. Oui, viens. On y travaille. Donc je renonce au mensonge. On continue. Je renonce au mensonge que toi, Dieu le Père, tu t'intéresses pas à moi particulièrement, que tu n'es pas capable de venir me rejoindre là où je suis. Je renonce au mensonge que Dieu le Père, tu n'as rien à me dire. Tu ne souhaites pas me prendre dans tes bras d'amour et puis me cajoler pendant des heures. Je renonce au mensonge que toi, Dieu le Père, tu n'as pas de temps pour moi. Je renonce au mensonge que tu mets ton travail avant ta famille. Ah, vas-y, tu déclares, vas-y, continue là. On canarde. Hein, c'est profond, hein. Mais on continue là. Vous avez renoncé à tous les mensonges là ? Oui. Ça suffit. Hein. Non, mais c'est profond, hein. C'est normal que vous soyez un peu tous perturbés. C'est tout à fait normal. Parce que quand on va dans les profondeurs, bah, ça perturbe. Il y a des guérisons du cœur, il y a des délivrances. Puis vous voyez comment le pardon, c'est une clé. C'est sûr que l'ennemi, il aimerait nous dire « Non, il ne mérite pas, tu ne vas pas le pardonner, il ne mérite pas. » Bien sûr qu'il ne mérite pas, ce n'est pas la question. C'est que moi, je veux être libre, alors je choisis de pardonner. Moi, je veux être libre. Je veux vivre la paix, je veux vivre l'amour, je veux vivre la joie, alors je choisis de pardonner. Donc, on a renoncé à tous ces mensonges, maintenant, on va dire... Vous êtes prêts avec votre stylo et votre papier, là ? Tournez la page, parce qu'il faudra de l'espace. Et vous écrivez comme titre « Lettre du Père, pour moi ».« Lettre du Père, pour moi ». Vous écrivez le titre ? Vous donnez une feuille à votre voisine ? Votre voisin ? Tout le monde a une feuille ? Oui ? Alors vous verrez comment Dieu, il est si proche de nous. Lettre du Père, vous avez écrit « Lettre du Père pour moi ». Alors on va dire simplement, tout le monde écrit, hein, vous êtes prêts ? Attention, ne perturbez pas les élèves, ils doivent recevoir la lettre du Père, là, attention. Dieu le Père, écoute, écris pas avant. Je ne vais pas te dicter la lettre, c'est Dieu qui va le faire. Mais on va simplement dire, dites avec moi, Dieu le Père, est-ce que tu peux m'écrire une lettre d'amour et me révéler qui tu es et qui je suis ? Voilà. Et puis maintenant, t'écris ce qui te vient, simplement. C'est aussi simple que ça. T'écris ce qui te vient. Chère Myriam, hein ? Ne discutez pas avec votre voisin et votre voisine, c'est très personnel. Et puis on prend le temps simplement. On peut mettre une petite musique. Voilà, super. Et s'il y a un mensonge qui vient dans votre tête en disant mais Dieu, il s'occupe toujours des autres, mais jamais de moi, ben, sachez que c'est un mensonge. Puis vous dites je renonce à ce mensonge dans le nom de Jésus. Et Père, viens me parler.